Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir José Boublil, un collectionneur et philanthrope, avec qui nous allons parler d'art. Bonsoir José.
Bonsoir.
Une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas évoquer l'actualité culturelle en particulier, mais l'art en général et l'art juif en particulier. Avec vous, José Boublil, merci de nous accompagner.
Merci à vous de me recevoir.
Alors, vous êtes un collectionneur iconoclaste. Votre patronyme, Fleurbon, votre Tunisie natale, et la peinture serait presque une histoire de femme chez vous. Votre mère, qui venait de la haute bourgeoisie tunisienne, n'est pas innocente de votre engouement pour l'art. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes devenu collectionneur et comment votre mère a joué un rôle dans votre engouement pour l'art ?
En fait, le processus est assez classique. Quand on a la chance, tout le monde l'a pas, d'avoir des parents qui ont un certain type de culture, eh ben on est déjà dans un chemin qui est très très avantagé par rapport à d'autres. Ma mère a été peintre d'abord, amateur, mais quand même une excellente peintre. Elle a exposé au Salon de Tunis. Et par ailleurs, elle achetait des tableaux déjà, quelques tableaux, et dans la famille, du côté de mon père, la famille était extrêmement bourgeoise, voire plus, et nous avions la chance d'avoir aussi un environnement esthétique assez particulier, notamment pour la Tunisie, c'est-à-dire qu'on avait de très très beaux tableaux, de très beaux meubles qui avaient été notamment dessinés, designés par des grands créateurs français dans les années 30, etc. On a vécu dans ça. Et puis, progressivement, ma mère m'a fait venir à ses cours de peinture avec un prof russe à Tunis, une femme russe formidable, qui s'appelait Natacha Markov, qui s'appelle peut-être toujours. Petit à petit, j'ai découvert d'autres mondes, notamment l'archéologie, parce que je me promenais souvent à Carthage, très jeune déjà, avec un copain, et on allait regarder si sous les pierres il n'y avait pas des pièces, etc. Donc il y a le côté esthétique, et puis il y a le côté Chine, chasse au trésor, etc.
Vous pouvez nous dire quel était le nom de jeune fille de votre mère ?
Elle s'appelle Liliane Nizard. Mon grand-père venait, comme la plupart des grands-pères, d'un monde très très pauvre, et il avait fait, et il était devenu, était beaucoup investi dans tout ce qui était épices, et il était le premier trader d'épices probablement de la Méditerranée. C'est lui qui a aidé Ducrot, les épices Ducrot à démarrer, etc. Voilà, donc une famille très simple mais en même temps aisée, et qui s'intéressait un peu à la littérature et à la peinture. Voilà.
Et qui vous met le pied à l'étrier très tôt enfant. On peut dire qu'il existe un mouvement pictural, l'école de Tunis, avec des maîtres comme Jalal Ben Abdallah, mais est-ce qu'il existe, d'après vous, des grands peintres juifs tunisiens ?
Ah ben, il y en a certains, oui, absolument. Il y en a trois qui sont clés dans l'art juif tunisien, mais je dirais l'art tunisien parce que je vous expliquerai pourquoi le terme juif avec art ne colle pas tout à fait avec la peinture. Il y a trois peintres juifs importants. Le premier, probablement celui qui est le plus connu au niveau international, s'appelait Moses Lévy. Il venait d'Italie. C'est un garni, comme on dit chez nous. Oui. Il était l'élève de pratiquement le maître du mouvement Macchiaioli, c'est-à-dire impressionniste italien, qui s'appelait Giovanni Fattori. Et c'était un peintre immense dans un endroit, la Tunisie, qui n'était pas très riche au niveau culturel et peinture, etc. Il s'est retrouvé avec trois ou quatre personnes brillantes, mais qui étaient un peu isolées. Alors il y avait donc lui, qui était un peu chef de file, qui a notamment fait des chefs-d'œuvre dans les années 18-20, vraiment chefs-d'œuvre. Il y a eu un deuxième peintre, beaucoup moins connu, mais qui pour moi est un immense artiste, qui s'appelle Jules Lelouch, qui lui, dans les années 20, faisait des choses très comparables à ce que faisait Moses, dans une touche très particulière, très personnelle. Et puis il y avait Bismuth, qui était le peintre du pauvre, entre guillemets, qui a fait surtout des rabbins, et qui est un excellent peintre qui avait étudié à Paris avec un maître qui s'appelle Jules Adler, qui est un peintre assez connu, juif également.
D'accord.
Je disais que, voilà, je précise donc, la notion de juif me gêne toujours dans la peinture, parce que quand on parle d'art juif, l'art juif doit représenter des sujets au moins juifs ou un esprit juif. Il n'y a pas d'esprit quand vous peignez une plage et que vous êtes juif qui peut, ou on pourrait dire un art juif. Quand, si vous voulez, même Soutine, qui est tellement juif dans son expressivité, peint un arbre complètement tourmenté, on peut dire que c'est juif, mais au fond, un bonhomme tourmenté et pas juif pourrait peindre la même chose. Donc pour moi, l'art juif, on doit le rattacher à Betzalel dans la Torah, c'est-à-dire pour les objets d'art juif, pour quelque chose au moins qui représente le judaïsme. Un peintre, on parlera peut-être des peintres ashkénazes extraordinaires de l'art juif, qui sont eux vraiment des peintres juifs. Là, ce sont des peintres, ils se trouvent qu'ils sont juifs, mais l'art n'est pas juif.
D'accord. Alors, les questions de définition sont quelque chose d'assez important. Je vous ai présenté tout à l'heure comme un collectionneur iconoclaste et vous avez écrit un livre qui s'intitule « Iconoclash, expert en art et en malhonnêteté ». Le titre est déjà tout un programme. Il aurait pu s'appeler « Comment survivre en terrain hostile, une histoire du marché de l'art ». Et vous y racontez des anecdotes d'achat de tableaux qui sont toutes plus incroyables les unes que les autres. Mais je vais d'abord vous citer. Vous parliez de la définition de l'art juif qui est encore aujourd'hui l'objet de nombreuses discussions, mais vous définissez l'art, et selon vous, je vous cite, vous dites « L'art pictural n'est pas une chose banale, un petit rien, une simple décoration d'un espace donné. L'art véritable transforme le monde, le fait passer d'une certaine monotonie, d'un environnement de peu d'intérêt, à un bouleversement de son regard. Cet art est en soi un choc visuel, parfois intellectuel, s'agissant de donner à l'image esthétique un sens profond ou anecdotique. Cet art est aussi une rupture, une cassure face à la banalité. L'art fut jusqu'à récemment l'un des vecteurs du beau, de l'esthétique. » Et vous précisez que l'art a débuté par des représentations religieuses. Est-ce que votre rapport au judaïsme joue un quelconque rôle dans votre sensibilité à l'art au-delà de votre initiation lors de votre enfance ?
Alors ça, c'est une question immense. Je pense que quand on est juif, en tout cas conscient d'être juif, ça rejaillit sur tout ce qu'on fait. Donc je ne peux pas dire que ça n'est pas, qu'il n'y a pas de lien. Notre sensibilité juive a un lien avec tout ce qui est sensible, tout ce qui est qui relève de l'humain jusqu'au plus profond. Donc, mais au fond, il y a des tas de gens qui ne sont pas juifs et qui pensent comme moi et qui ont ce rapport à l'art comme le mien. Moi, je dois avouer que j'ai un lien particulier, peut-être parce qu'en tant que juif, je recherche une expression de l'âme humaine particulière, parce que nous sommes spécialement touchés toujours par ce côté, je dirais, des choses en profondeur. Alors, mais voilà, je ne crois pas non plus, on doit le garder un peu pour soi, cette chose-là, c'est-à-dire que je suis juste un collectionneur, et il se trouve que je suis juif, et peut-être qu'il y a un lien, voilà, pas.
Alors, vous confirmez hein, que toute biographie n'est jamais étrangère à ses engagements. Et justement, votre livre, vous le dédiez à vos trois parties. « Ma Tunisie bleue et douce, aujourd'hui tachée de sang des fous, où vous êtes née. « Ma France qui m'a appris à faire la révolution et à n'être jamais content de l'injustice, la France que vous avez rejoint. » Et puis maintenant, « À Israël qui m'a enseigné le courage et l'humanité, le vent des collines de Jérusalem qui panse depuis des millénaires les blessures de son peuple. » Alors, vous écrivez aussi que la France est aux œuvres d'art, ce que l'Afrique du Sud est aux diamants. Est-ce que ça reste vrai en 2020 ?
Mais oui, complètement. En fait, il y a des parenthèses dans l'histoire. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis quelques dizaines d'années, peut-être 20 ans, la France n'a pas brillé par ses grands artistes. Bon, il y a Pierre Soulages, il y a quelqu'un que je trouve extraordinaire, peu connu, qui s'appelle Hervé Télémaque. Il y a... quelques grands artistes, mais on a tellement accumulé de choses en France dans l'art qu'on a le droit de faire une pause de quelques années, alors que les gens pensent que ça y est, on a passé le relais aux Américains, qui sont les grands génies de la peinture et de l'art. Je pense que c'est une question de période. La période est un peu sombre pour la culture en France, je trouve, depuis quelques années. L'art est forcément fait partie de ça. Mais la France est quand même, il faut imaginer que depuis 120 ans, disons depuis le début du siècle, la France c'est Picasso, c'est Braque, c'est tout le cubisme, c'est tout le surréalisme, c'est tous les peintres étrangers qui sont venus, c'est l'école de Pont-Aven, c'est les Nabis, c'est les premiers abstraits. Je veux dire, c'est difficile d'imaginer un pays qui arrive à la cheville de la France en termes de richesse et de diversité artistique. Le seul pays qui pourrait faire, je dirais, jouer dans la compétition, c'est l'Italie, mais il y a 4 siècles. Et puis l'Italie, on n'a pas eu après un tel parcours. Mais la France, c'était le lieu, Paris notamment, le concentré de l'art mondial. C'est-à-dire que tous les artistes, même les plus grands de l'étranger, étaient en France les plus grands. Donc, y compris le courant qui me touche le plus, qui est le surréalisme, voilà, les plus grands étaient là. Quoi. Les Bronner et autres génies de cet art-là. Donc, la France, c'est la France pour toujours. Je veux dire, c'est pas parce que sur 1000 ans, il y a 50 ans de pause que c'est plus la France.
Alors, c'est justement en France que vous avez rejoint, que vous avez commencé votre collection. Est-ce que vous vous souvenez quel a été le premier tableau que vous avez acheté et dans quelles conditions?
Oh oui. Alors, le premier tableau que j'ai acheté, je précise, avec ma femme. Avant, j'ai dû acheter des petits trucs dans les puces. Mais le vrai tableau que j'ai acheté, le premier, en fait, j'étais en Israël et j'étais déjà passionné de peinture, mais j'avais jamais acheté à un prix sérieux. C'était en 81, je crois. Et je rentre dans une galerie et il y a un tableau qui m'interpelle et qui est un tableau avec des lettres en hébreu, pas très grand. Et je tourne autour de ce tableau, je regarde autre chose, mais je reviens sur ce tableau. Ma femme a adoré, et la bonne femme me demande 5000 francs. Il me restait 3 jours pour rester en Israël, et puis on devait rentrer à Paris. Et je ne discute pas, je paye 5000 francs, c'est-à-dire qu'il me restait 200 balles en poche. Et pendant 3 jours, on a dormi dans un hôtel assez sombre, dans la vieille ville, avec le tableau sous le lit, sous le matelas, pour essayer de le préserver, parce qu'il y avait des gens pas très clairs dans cet hôtel. Mais j'étais très fier de mon achat. On est rentré à Paris, le tableau est encore accroché chez moi ici, à côté de tableaux un peu plus sérieux. Mais il me touche toujours autant quand je passe devant.
Alors que c'est le début d'une collection d'œuvres d'art, est-ce que vous pouvez nous dire combien d'œuvres vous avez? Est-ce qu'il y a des particularités, une cohérence dans votre collection?
Alors, il n'y a aucune cohérence parce que j'aime la peinture, j'aime le dessin, beaucoup le dessin ancien, du 15e ou 16e siècle surtout. Il n'y a pas de règle, c'est-à-dire que j'aime tout. D'abord, le dessin d'abord, parce que le dessin, c'est ce qu'on dit, ce qu'on appelle le premier geste d'un artiste. Quand un artiste est immense, le dessin est plus important que le tableau derrière, parce que le tableau, c'est essayer d'être à la hauteur du dessin. Donc, les seuls qui ont fait de la vraie peinture sans le dessin sont les premiers, les impressionnistes, qui n'ont plus utilisé le dessin. Mais jusque-là, quand vous voyez un tableau de Jérôme, qui est un peintre dit pompier, mais qui a fait des magnifiques tableaux, notamment sur le Cotel, etc., sont des gens qui, au fond, sont des dessinateurs qui ajoutent de la peinture. Donc moi, j'aime tout, depuis celui qui dessine, surtout celui-là, et puis celui qui est capable d'être à la hauteur de son dessin. Et après, ceux qui ont été capables de couper le cordon du dessin et de nous envoyer des couleurs. Voilà.
Combien d'œuvres vous avez à peu près?
Ouf. Je n'ose pas tellement annoncer. Bon, allez, on va dire plus de 1000 tableaux.
Donc une jolie collection. Alors justement, précisément, c'est quoi le quotidien d'un collectionneur? Est-ce que vous fréquentez régulièrement les salles de vente? Vous consultez des catalogues d'art?
Alors, alors pour l'anecdote, aujourd'hui je vis en Israël, donc les salles de vente, elles n'existent quasiment pas, je veux dire, il n'y a pas de vrai marché. Quand je vivais à Paris, il y avait des blagues chez moi. Je suis à l'origine expert comptable, surtout commissaire aux comptes. Dans les années 90, je suis devenu le leader français parmi les signataires à la Bourse de Paris dans les nouvelles technologies. Tout le monde pensait que je bossais 15 heures par jour. En fait, je bossais 13 heures à Drouot et 2 heures au cabinet. Et j'ai eu de la chance, c'est d'avoir une équipe géniale et qui a fait le travail pour moi. Moi, j'étais juste là pour regarder que tout allait bien. Il se trouve en plus, pour l'anecdote formidable, que mon bras droit, qui s'appelle Jean-Luc Bérédi, qui une fois que je suis ensuite devenu associé du cabinet Deloitte à Paris, puis j'ai fait mon alia, Jean-Luc m'a suivi comme associé chez Deloitte, puis il a fait son alia, et aujourd'hui Jean-Luc est le patron de fait. Alors dans les titres, c'est pas tout à fait ça, c'est le patron de fait du groupe de Sotheby's mondial. Donc les liens sont assez amusants. Donc j'ai fréquenté les salles de vente plus que mon bureau de loin, les puces, etc. Et en fait, on ne sait jamais au détour de quoi on va tomber sur un chef-d'œuvre, ou en tout cas à ses yeux un chef-d'œuvre. Voilà, on doit être un petit peu humble parfois, parce qu'on pense qu'on détient la vérité dans tout, y compris dans la peinture, mais j'ai acheté des tableaux pas mal quand même, globalement.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie du collectionneur José Boublil. De quelle œuvre êtes-vous le plus fier? Est-ce qu'il y en a une en particulier qui suscite une fierté dans votre collection?
Alors, la seule œuvre qui compte dans ma vie, c'est ma famille. Le reste, c'est quelque chose qui est à la fois spirituel, mais qui ne va jamais à ce niveau-là. Donc, j'ai des œuvres, il y en a quelques-unes. J'ai des tableaux chez moi, par exemple, qui, en apparence, sont rien du tout. J'ai un tableau, je montre à tout le monde que c'est mon préféré, c'est un tableau cubisant avec une sorte de tour de Babel, une montagne avec des maisons vers 1910-12. Voilà, c'est un tableau que j'adore et qui est pas facile d'accès, que j'ai payé à l'époque à Drouot 70 francs. Je peux vous garantir que ça vaut un tout petit peu plus, mais je sais toujours pas qui c'est, ou je préfère ne pas dire à qui je pense. Mm-hmm. Ça, c'est un tableau pour moi magique. J'ai des tableaux qui me touchent parce qu'ils sont mes origines, donc des vues de Tunisie, Sidi Bou Saïd, avec un grand format Sidi Bou Saïd et un ciel tout bleu. Pour moi, c'est pas juste de la peinture, c'est en permanence la possibilité, à la maison chez moi à Jérusalem, d'avoir un lien direct avec mes racines. Et puis évidemment, des sujets typiquement juifs, ou un tableau par exemple, du peintre Bismuth, qui représente la synagogue de la Hara, qui a été détruite, qui donc n'existe plus, et les rabbins, ces rabbins-là non plus n'existent plus, dans leur costume tellement oriental, tellement judéo-oriental, et on voit une synagogue avec des contre-jours comme ça, des salles derrière des salles. Voilà, pour moi, c'est pas seulement... qui sont les grands peintres? Alors oui, j'ai quelques tableaux, un peu plus, de peintres très très importants, je crois.
Bon. Oui, comme qui en particulier?
Voilà. Écoutez, je pense que j'ai... Pour certains... J'ai des tableaux, j'ai trois, quatre tableaux quelque part à Paris, qui ne sont pas à la maison de Géricault. J'ai des Sisley, j'ai un Courbet magnifique, mais j'en ai J'en ai beaucoup, mais je voudrais pas trop asséner des noms comme ça, parce que chaque pièce est quelque chose de particulier. En plus, dans l'histoire, comment j'ai acheté ces pièces? Mais c'est un truc absolument... Chaque tableau est une histoire. Donc, je préfère juste donner quelques grands chapitres comme ça. Si vous voulez, je vous raconte une histoire rapidement.
Allez-y.
Un tableau qui est ici chez moi, à Jérusalem. Un jour, je vais au Puce de Vanves un dimanche matin. Normalement, à Vanves, le dimanche, il n'y a plus rien, parce que le samedi, tout le monde a écumé les puces. Et donc, normalement, j'arrive le dimanche matin juste comme ça, en me disant, bon, on va bien trouver un petit truc. Et je vois un tableau magnifique. J'hésite à l'acheter pour diverses raisons. Et à un moment donné, je m'aperçois qu'il est signé et que la signature a été effacée, volontairement, manifestement. Et j'arrive à déchiffrer la signature. C'est un grand tableau, une vue de Paris avec des péniches. Et c'est signé C. Pissarro, Camille Pissarro, qui en plus accessoirement un peintre juif, mais pas seulement un peintre juif. Voilà. Et j'y crois pas en me disant, bon, ouais, avant, personne n'a vu un Pissarro le samedi. Et je rentre chez moi, je consulte mes bouquins et je me tape la tête contre quelques murs en me disant, je suis un idiot. Voilà. Et je retourne après les vacances, on était fin juillet, et je vois le vendeur qui m'appelle de loin et me dit, ça t'intéresse toujours pas mon tableau là de péniche. Je vous l'ai fait courte, hein, parce qu'il y a encore plus de rebondissements que ça. Et je lui dis, non, si, ça m'intéresse. Et donc, je l'achète tout de suite, en fin de compte, ce tableau. Et aujourd'hui, il est accroché chez moi, il est incroyable, le tableau. Je pense que c'est un Pissarro de 1902-1903, tardif, mais donc probablement dans la catégorie des tableaux les plus importants de Pissarro. Et je suis convaincu, que c'est un tableau qui a appartenu à un juif, qui l'a caché pendant la guerre, parce que la manière dont c'était caché, parce qu'on peut cacher une signature en passant de la gouache, par exemple, dessus. Non, le type était pressé, il a dû prendre du papier de verre et il a frotté ce truc.
C'est assez incroyable comme histoire. Est-ce qu'on peut dire que c'est une œuvre congelée? Vous en donnez la définition dans votre livre. Ouais, qu'est-ce que c'est une œuvre congelée?
Oui, c'est une œuvre congelée parce qu'on m'a refusé le certificat. Mais premièrement, ils ont au moins reconnu qu'ils voyaient bien ces Pissarro comme moi, ce qui est déjà pas mal. Et deuxièmement, l'institut qui refuse, je préfère ne pas en parler ici, on en aura pour quelques heures. Mais et puis c'est pas joli.
Est-ce qu'aujourd'hui, Monsieur Boublil, on peut encore trouver facilement des chefs-d'œuvre qui sont passés à côté de l'expertise, qui sont des œuvres congelées?
Tous les jours.
Vous en trouvez encore?
Tous les jours. C'est-à-dire que faut comprendre un truc simple. C'est un chef-d'œuvre. S'il n'est pas signé, personne ne reconnaît à part un type qui a un œil. Très peu de gens ont un œil. Très peu de gens travaillent. Il y a beaucoup de flemmards dans ce métier. Il y a surtout des postures. Je suis un peu dur. C'est pour ça que mon titre est assez acide. Mais on trouve tous les jours des tableaux pas signés qui sont des plus grands maîtres, à condition de bien voir que c'est ce type-là. Mais c'est évident qu'il y a des tableaux qui sont tellement extraordinaires que ça ne peut pas être personne. Ça ne peut pas être un peintre de troisième catégorie. Et quand je dis tous les jours, c'est pas loin d'être tous les jours. Vous savez combien il y a de tableaux? Je vous donne un repère.
Oui.
En France, il doit passer en vente peut-être 100 000, 150 000 tableaux chaque année. Vous, sur 150 000, les peintres, la moitié de leur production, au moins le tiers, n'a pas été signée. En tout cas, au moins les dessins, les aquarelles, les gouaches, les pastels. Et les huiles, on a commencé à signer qu'en 1860 ou 70. Donc, les très grands peintres, même les Delacroix, les Géricault, les tout ça, les romantiques, Henri Schaeffer et compagnie, ces gens-là, ils ne signaient pas. Et alors, a fortiori, vous imaginez un dessin. Donc, vous avez des dessins pas signés de tous les plus grands. Et le problème, c'est juste de faire certifier. Mais moi, je préfère acheter un tableau parfois à 500 euros, qui est peut-être d'un des plus grands maîtres de l'histoire, que de payer 10 000 une lithographie d'un soi-disant posture 2010 qui a beaucoup de marketing derrière lui, quoi. Voilà. Donc il y a beaucoup de tableaux. Je ne peux pas vous expliquer trop les détails de l'histoire parce que là on rentre dans une autre problématique, c'est que je veux éviter d'avoir trop de concurrents et les Juifs sont très très rapides à comprendre des choses. Et
alors justement, en vous écoutant, hein, c'est vraiment passionnant et devant votre expertise, les auditrices et les auditeurs de Radio Shalom vont attendre des conseils. Déjà, comment on débute une collection? Est-ce que tout le monde peut se lancer, quelle que soit sa culture en matière d'art et quel que soit son budget surtout?
Écoutez, la première culture pour un collectionneur, c'est l'œil, au plan biologique, puisque l'œil sait déjà ce qui est beau et moins beau. Et la pyramide de Khéops, qui est la règle d'or, le triangle d'or, la base même de toute l'esthétique du monde, elle part de l'œil. Voilà, c'est pas un type qui a fait un triangle, c'est l'œil qui a décidé que ça c'était beau et ça c'était moins beau. Quand, si je vous fais une pyramide très très haute et avec une base très fine, c'est pas joli. Voilà, faux. Voilà, et c'est pas moi qui dis, c'est juste mon œil qui me dit. Donc tout le monde peut s'y mettre, mais c'est vrai qu'il faut aussi travailler son œil, parce qu'il y a des choses, entre deux tableaux abstraits, il y en a un qui est beau et un autre qui est pas beau. Voilà. Et c'est bizarre, et je peux vous garantir que vous prenez des vrais collectionneurs, des vrais connaisseurs, on fait tout de suite la différence. Tout de suite.
Alors, on ressent, voilà, en vous écoutant, que là... Oui, que l'art, c'est une histoire, un ressenti, un œil, une émotion, plus que des signatures ou finalement des histoires d'argent ou de budget. Est-ce que vous auriez un message à faire passer aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom?
Écoutez, si ça les attire, celui qui est attiré par l'art, il va apprendre très très vite, à condition d'acheter quelques bouquins, d'aller dans les musées, d'aiguiser son regard avant de commencer à faire une collection. Parfois, j'ai eu une ou deux anecdotes qui font comprendre ça. Un jour, il y a un type qui me montre un tableau de son cousin et il me dit, il dessine très très bien, un pastel représentant un rabbin connu. Et j'ai dit, ah oui, effectivement, il dessine bien. Et puis, je lui ai montré un portrait d'homme barbu peint par Corot, à moi, dans ma collection. Il a regardé, il me dit, ah oui, je comprends. Et là, il a compris. Voilà. Parce que les choses sont simples au fond, il suffit juste de délivrer le message, d'accompagner les gens. Sachez que autour de moi, même les gens qui bossent avec moi, j'ai une entreprise à Jérusalem qui développe pas trop mal, j'ai une centaine de personnes. Et chez moi, il y a des tas de jeunes filles, jeunes femmes, de mecs aussi, mais plus des jeunes femmes qui sont plus dans la notion de goût, de décoration, etc., à qui je donne des conseils pour acheter des tableaux pour 3 sous, entre guillemets, c'est-à-dire à 200, 300, 400 euros, et des tableaux magnifiques. Sauf qu'elles ne vont pas savoir dire, ah ça c'est de Matisse ou c'est de Géricault. Mais ça n'a aucune importance. Mais c'est magnifique. À côté, vous allez voir un type qui va vous inviter chez lui, il est très riche, et il va vous montrer un tableau. Vous allez dire, le pauvre, j'ai de la peine pour lui qui supporte de vivre avec ça toute la journée. Et lui, il a payé ça 150 000 euros. Bon, eh ben, écoutez, moi, l'art, pour moi, c'est la beauté, c'est pas un rapport de force, de fric, etc. Voilà. Et donc, tout le monde, en travaillant un peu, peut vraiment apprendre et se faire vraiment plaisir. Et d'ailleurs, s'il y a quelques personnes, pas des tonnes, mais je veux bien aider des gens à acheter quelques trucs, voilà.
On pourrait vous écouter des heures, José Boublil, parler de votre passion. Merci beaucoup de l'avoir évoqué avec nous sur l'antenne de Radio Shalom. Et donc, peut-être à bientôt pour des conseils ou au détour d'une salle de vente. Bonsoir et à bientôt.
Okay. Bonsoir.